RCF. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Place de l'Europe. Je suis Rémi Jabé, volontaire en service civique au pôle média des jeunes européens de Strasbourg. Une fois par mois, nous nous invitons dans le studio de RCF Alsace pour vous proposer une émission consacrée à l'Europe. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'Union européenne sur la scène internationale. Alors, pour en parler ce soir, nous retrouvons Gwen Taburet qui nous vient de Brest. Gwen, vous êtes étudiante en relations internationales et responsable média des jeunes européens de Strasbourg. Bonsoir Gwen.
Bonsoir.
À vos côtés, Gwen, votre binôme des jeunes européens de Strasbourg, puisqu'il est lui aussi responsable média de l'association. Bonsoir Théo Boucarin.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef du Taurillon National et vous travaillez à l'université de Strasbourg. Vous êtes en charge de l'insertion professionnelle des jeunes dans le domaine franco-allemand. Bienvenue Théo. Et enfin, Martin Devaux de Chambord est parmi nous ce soir. Vous êtes volontaire en service civique dans l'association. Vous intervenez dans les collèges et lycées pour présenter le fonctionnement de l'Europe aux jeunes. Bonsoir Martin et bienvenue.
Bonsoir Rémi, bonsoir à tous.
Et le député européen Bernard Guetta sera notre invité plus tard dans l'émission. Il répondra aux questions de Gwen Taburet.
Place de l'Europe, avec le mouvement des jeunes européens, RCF Alsace.
L'Union européenne dispose d'un pouvoir diplomatique, mais elle est souvent critiquée par son manque de réalité sur la scène internationale et sa faible capacité d'action. Les dirigeants européens hésitent souvent à se positionner et à agir de manière claire sur des sujets d'importance, comme le Bélarus, le conflit en Méditerranée ou encore l'esclavage des Ouïghours en Chine. Ce soir, nous traiterons tous ces sujets. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous, Théo Boucarin. Alors, face à une Union européenne parfois désunie sur le plan international, le tandem franco-allemand peut-il prendre le leadership diplomatique ?
Oui, Rémi, alors le monde est confronté à de très nombreux défis, comme le dérèglement climatique, la menace d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le Brexit ou encore l'instabilité chronique du Moyen-Orient avec les guerres en Syrie, en Libye ou encore au Yémen. Il semble toutefois nécessaire que l'Union européenne s'affirme sur la scène internationale et s'engage dans la défense du multilatéralisme. Un multilatéralisme d'ailleurs remis en cause par de très nombreuses puissances, en premier lieu par les États-Unis. Et donc afin de renforcer la puissance européenne et sa résistance face à toutes ces turbulences mondiales, la France du président Macron et l'Allemagne de la chancelière Merkel ont renforcé leur collaboration sur de nombreux dossiers, comme sur le plan de relance Next Generation EU, censé renforcer la solidarité économique dans une Union européenne affaiblie par la Covid-19 et dont les négociations au Conseil européen du mois de juillet dernier ont pu aboutir à un accord.
Et c'est ce qu'il s'est passé durant le Conseil européen de juillet dernier, Théo.
Oui, justement, du 17 juillet au 21 juillet dernier, les deux dirigeants ont montré toute leur unité durant les rudes négociations qui ont finalement abouti à un premier accord sur un plan de relance d'un montant de 750 milliards d'euros. Un mois plus tard, à la fin août, la visite de la chancelière allemande au fort de Brégançon, dans le sud de la France, a été l'occasion d'aborder de nombreux dossiers de politique internationale, tels que les crises au Bélarus, au Liban ou au Mali, les tensions avec la Turquie en Méditerranée orientale, ou encore le Brexit. Les différentes prises de position sur des sujets tels montrent que l'Allemagne prend de plus en plus d'assurance diplomatique, et ça ne peut être qu'une bonne nouvelle pour l'Union européenne.
Pourtant, il fut un temps où cette perspective pouvait effrayer quelques-uns de nos leaders européens.
Effectivement, il y a quelques jours, nous fêtions les 30 ans de la réunification de l'Allemagne. Et une des principales craintes des leaders de l'époque, au premier rang desquels on trouve François Mitterrand et Margaret Thatcher, était de voir l'Allemagne, jusqu'à présent cantonnée à un rôle quasiment insignifiant sur la scène internationale, aspirer de nouveau à des visées expansionnistes. Des craintes totalement infondées, donc, étant donné que l'Allemagne unifiée s'est pleinement ancrée dans l'intégration européenne. L'Union européenne est aujourd'hui plus forte grâce au rôle de l'Allemagne sur la scène internationale. Et espérons que l'affirmation du tandem franco-allemand permette à l'Union de se renforcer.
Merci Théo Boucarin pour votre clarification sur ce sujet. Alors Gwen Taburet, vous vous êtes entretenue avec le député européen Bernard Guetta. Il répond à vos questions sur le thème de la place de l'Union européenne sur la scène internationale. L'entretien a été enregistré par téléphone avant l'émission.
Bonjour Bernard Guetta, donc vous êtes député européen depuis 2019 sur la liste Renew. Vous travaillez au Parlement européen, à la Commission Affaires étrangères et à la délégation relative à la coopération entre l'Union européenne et la Russie. Aujourd'hui, dans notre entretien, nous allons aborder la question de la puissance diplomatique européenne. Selon vous, face aux grandes puissances mondiales telles que les États-Unis, la Russie, la Chine ou encore le Brésil, l'Union peut-elle être considérée comme une puissance diplomatique de premier plan ?
Mais écoutez,
Commençons par retourner la question, parce que c'est intéressant, ce petit exercice. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la diplomatie américaine est très puissante sur la scène internationale? Peut-on dire que les diplomaties russes, chinoises, indiennes, pour parler des grands pays, ou des grandes puissances, ou des deux, peut-on dire que ces diplomaties soient extrêmement puissantes? Non, parce qu'il y a aujourd'hui un tel chaos sur la scène internationale, en admettant même qu'il y ait une scène d'ailleurs, plus aucun pays, quelle que soit sa puissance militaire, économique ou les deux, n'est à même de jouer ce rôle de gendarme du monde que les États-Unis avaient tellement longtemps, si longtemps joué, pendant la guerre froide, et même, disons encore, la douzaine d'années qui avaient suivi la guerre froide. Alors, revenons à l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, n'a pas d'armée, donc elle n'a pas l'instrument nécessaire à la puissance qui doit accompagner normalement l'influence politique et donc la diplomatie. Elle n'a que le verbe. Alors attendons. Elle n'a que le verbe, mais elle a aussi un marché de près de 500 millions de personnes, un marché sur lequel il y a beaucoup de consommateurs aisés, voire riches, en tout cas dont le pouvoir d'achat est grand. Donc un marché qui intéresse toutes les puissances du monde. Elle a un rayonnement, elle a des amis à travers le monde et elle a en tout cas des instruments de coercition qui sont les sanctions économiques et l'organisation d'une réprobation politico-morale. Mais écoutez, ça n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et si on compare aujourd'hui les images des États-Unis de Donald Trump, de la Russie de M. Poutine, de la Chine de M. Xi et de l'Union européenne de Mme Ursula von der Leyen, qui n'est pas réellement la présidente, mais enfin bon, peu importe, on va suivre l'image, eh bien écoutez, l'avantage est évidemment à l'Union européenne. Évidemment à l'Union européenne. Plus personne ne prend au sérieux les États-Unis de M. Trump quant à l'image de la Russie et de la Chine de messieurs Poutine et Xi. Elle est si mauvaise, si déplorable que, bon, ben, il n'y a pas photo. Alors vous voyez, pas d'armée, pas même un exécutif commun, réellement, une addition d'États-nations. Eh bien pourtant, si, un poids sur la scène internationale.
Concernant d'ailleurs Vladimir Poutine, une autre affaire vient s'ajouter à l'actualité européenne. C'est l'accueil par Berlin d'Alexei Navalny, le principal opposant au président russe Vladimir Poutine, empoisonné le 20 août dernier alors qu'il se rendait à Moscou. Quel est le principal intérêt de l'Union européenne de venir en aide à Alexei Navalny?
Mais tout, Dieu merci, en politique ne se ramène pas ou ne se résume pas aux intérêts. L'Union européenne n'avait pas ouvert les portes d'un de ses meilleurs hôpitaux pour tenter de soigner Alexei Navalny, nous serions tous aujourd'hui, collectivement parlant, morts de honte. Tout simplement mort de honte. Évidemment que nous avions à le faire et évidemment que nous n'avions pas à nous rendre complices de ces assassins en laissant Alexei Navalny mourir dans un hôpital où on refusait de le soigner et où on niait contre toute évidence qu'il ait été empoisonné. Alors maintenant peut-être peut-on inverser votre question. Est-ce qu'il y a un inconvénient pour les pays de l'Union européenne, pour l'Union européenne en tant que telle, à travers l'Allemagne, à avoir accueilli Alexei Navalny dans un de ses hôpitaux? Ben écoutez, je ne crois pas. Je ne crois pas pour une raison très simple, c'est que même M. Poutine ne peut pas dire que nous ayons fait quoi que ce soit d'inamical vis-à-vis de la Russie en sauvant l'un des ressortissants de la Russie. quant à l'opinion russe, car il y a une opinion russe et dont le poids politique est de plus en plus important, eh bien elle a été frappée dans cette affaire par trois choses. Premièrement, que son président avait au moins fermé les yeux sur cette tentative d'assassinat et l'avait donc permis s'il ne l'avait pas commandité. Deuxièmement, qu'un hôpital allemand, européen, de l'Union européenne, était capable de soigner, guérir partiellement pour l'instant, mais enfin tout de même, en tout cas de lui sauver la vie, à une victime d'un empoisonnement qui n'était pas tout de même rien. Et troisièmement, que les pays de l'Union européenne, loin d'être des ennemis du peuple russe, aujourd'hui, viennent de sauver l'homme qui, après tant d'assassinats d'autres opposants, incarne l'opposition politique à Vladimir Poutine.
Place de l'Europe, avec le mouvement des jeunes européens, RCF Alsace.
Vous venez d'écouter Bernard Guetta qui a répondu aux questions de Gwen Taburet, la suite de l'interview plus tard dans l'émission. Martin, début octobre, le dernier Conseil européen a eu lieu à Bruxelles. Vous vouliez nous en dire un peu plus?
Oui Rémi, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se réunissaient les 1er et 2 octobre. Au programme, un certain nombre de dossiers de politique étrangère, avec au premier chef le cas biélorusse. La dernière dictature d'Europe s'est en effet attirée les foudres de l'UE, la faute à un énième trucage des élections présidentielles et à des arrestations arbitraires massives. Les 27 s'étaient donc mis d'accord au préalable pour sanctionner une quarantaine de responsables de la répression biélorusse.
Et dans les faits, comment ça s'est passé?
Bien que tous les pays reconnaissent la nécessité de sanctionner Minsk, Chypre a menacé de retirer son vote, synonyme de veto, puisque tous les pays du Conseil devaient se mettre d'accord pour agir. Nicosie était en réalité favorable à ce que des sanctions soient prises à l'encontre du régime de Loukachenko. Le gouvernement chypriote estimait néanmoins que de telles mesures ne devaient pas seulement être décidées à l'encontre de la Biélorussie.
Le Conseil européen a voulu condamner le Bélarus, mais pour Chypre, ce n'était pas suffisant.
Oui, la petite île méditerranéenne est depuis le 10 août en première ligne avec son voisin grec face à la Turquie. Ankara déploie en effet des navires de prospection dans les zones exclusives maritimes de ses voisins, avec l'objectif assumé d'exploiter à terme les gisements d'hydrocarbures qui s'y trouvent. Face à cette agression, le gouvernement de Chypre souhaite que des sanctions soient prises par l'UE afin de calmer les ardeurs du régime d'Erdogan. Le hic, c'est que ce sujet ne faisait lui pas l'unanimité, puisque l'Allemagne, notamment, souhaitait une désescalade des tensions dans la région. Ce qui compte, c'est que Chypre, n'obtenant pas gain de cause sur le dossier turc, a menacé d'utiliser son pouvoir de blocage dans le dossier biélorusse, même si ce sont deux sujets de politique étrangère différents.
Et alors, comment se sont passées les négociations?
Il aura fallu de longues heures pour rassurer les chypriotes en leur promettant non pas des sanctions, mais des menaces faites aux Turcs. Au passage, cela n'a absolument pas fonctionné, puisque le 12 octobre, un navire de forage turc a repris, sous escorte militaire, ses activités dans les eaux grecques. L'Europe n'est donc pas passée loin de la paralysie, même sur un dossier où tous les États membres étaient d'accord. On aurait difficilement pu imaginer pire publicité faite à la règle de l'unanimité au Conseil. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a d'ailleurs appelé les États membres à renoncer à cette fameuse règle de l'unanimité au profit de la majorité qualifiée. Le problème, c'est que cette demande avait déjà été formulée par son prédécesseur, Jean-Claude Juncker. Sans succès, puisque pour renoncer à la règle de l'unanimité, il faut, eh bien, l'unanimité des États membres. Bref, la première puissance commerciale au monde qu'est l'UE semble encore bien loin de devenir un acteur géopolitique important.
En effet, cette règle est plutôt curieuse. Merci Martin pour cet éclairage. Et pour rappel, il y a trois modalités de vote au Conseil européen. Le vote à la majorité qualifiée, le vote à la majorité simple et le vote à l'unanimité lorsque les États membres considèrent le sujet comme sensible, dans le cas du Bélarus par exemple. Lors de la dernière session plénière de septembre, l'eurodéputé Bernard Guetta a adressé une lettre ouverte à Vladimir Poutine pour lui demander de ne pas intervenir au Bélarus, mais de se placer, je cite, en faiseur de paix et de jeter les bases d'une coopération entre l'Union européenne et la Russie. On écoute la suite de l'interview de Bernard Guetta.
Pensez-vous que l'Union européenne est disposée à coopérer de nouveau avec la Russie et Vladimir Poutine ?
La question qui se pose est de savoir si Vladimir Poutine est aujourd'hui disposé à coopérer avec les pays de l'Union européenne pour trouver le nécessaire compromis au Bélarus. Évidemment que les pays de l'Union européenne sont disposés à faire tout ce qu'ils peuvent faire et plus encore d'ailleurs, pour empêcher une nouvelle déstabilisation du continent Europe. Nous avons déjà l'Ukraine. Il est inutile pour tout le monde, la Russie comme les pays de l'Union européenne, d'y ajouter un vrai foyer de déstabilisation que pourrait devenir la Biélorussie. Alors, est-ce que M. Poutine pourrait être tenté par un compromis? Un compromis, c'est pas lui qui est directement aux commandes à Minsk, mais disons qu'il l'est quand même un petit peu indirectement, même largement. Alors, est-ce qu'il peut être tenté, disons, par un feu vert donné par le Kremlin à la recherche d'un compromis? Peut-être pas tout de suite, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être pas dans le mois qui vient, mais dans les deux ou trois mois qui viennent, je dirais que oui. C'est largement possible parce que M. Poutine, aujourd'hui, additionne les difficultés sur tous les fronts. Regardez, en Syrie, il a perdu depuis plusieurs mois déjà son principal et seul allié, qui était le régime iranien, parce que ce régime iranien lui-même a perdu le Liban après l'Irak, a des coffres vides, une impopularité qui bat des records dans l'histoire de ce régime. L'Iran aujourd'hui ne peut plus aider la Russie en Syrie et la Russie s'y retrouve bien seule face à un régime syrien sous les pieds duquel la terre se dérobe de plus en plus spectaculairement. Et puis sur la scène intérieure, la popularité de M. Poutine décroît régulièrement et à une vitesse de plus en plus grande. Le niveau de vie baisse, le mécontentement social grandit, les coffres de l'État se vident pour une raison très simple, c'est que les cours du pétrole ont dégringolé et qu'avec la pandémie, le ralentissement économique qu'elle induit et surtout l'extension de par le monde de la lutte contre le réchauffement climatique et donc la guerre contre une énergie comme le pétrole, eh bien, les cours de cette matière première ne vont pas réaugmenter. Or, le pétrole et les matières premières sont, je ne dirais pas, l'unique ressource de la Russie, mais de très très loin, la principale ressource totalement essentielle à l'équilibre des comptes russes. Donc, M. Poutine ne peut pas, aujourd'hui, ou ce serait une folie de sa part, ne peut pas additionner une vraie crise biélorusse à la véritable crise ukrainienne. Non. Il ne peut pas envoyer de troupes en Biélorussie. Et si M. Loukachenko n'arrive pas à avoir raison du mouvement de contestation populaire, il y a un moment où M. Poutine cherchera à le remplacer par quelqu'un de plus acceptable par la population biélorusse.
Concernant le Bélarus, des sanctions ont été prises la semaine dernière par les 27 dirigeants européens contre une quarantaine de responsables du régime d'Alexandre Loukachenko, accusés de répression contre l'opposition ou de falsification du résultat de l'élection présidentielle. Parmi ces sanctions, on retrouve notamment l'interdiction d'entrer sur le territoire de l'Union et un gel des avoirs dans l'UE. Pensez-vous que les sanctions prises contre le régime de Loukachenko par l'UE sont suffisantes ?
Suffisantes, non, mais elles pèsent, bien sûr qu'elles vont peser, parce qu'elles inquiètent tous ces hommes qui, soudain, se disent, parce qu'ils aiment bien, vous savez, venir à Paris, à Rome, à Berlin, les bons restaurants, les boîtes de nuit, les belles vitrines, l'occasion de dépenser leurs biens, leur argent mal acquis. Alors, non, ils n'aiment pas être sanctionnés comme ça, et puis ils se disent que, vraiment, les taux se resserrent contre eux, et que ce Loukachenko, qui pour l'instant s'en tire, l'Union, à tort à mes yeux, enfin, c'est ainsi, n'a pas voulu mettre le président sortant sur la liste des personnalités sanctionnées, et donc ses collaborateurs se disent, ah ben voilà, lui il s'en tire, nous pas, Non, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça. Et regardez les sanctions prises contre la Russie après l'annexion de la Crimée, ben elles ont beaucoup pesé dans les difficultés économiques actuelles du régime de Monsieur Poutine.
Merci Bernard Guetta d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie.
C'était Bernard Guetta qui répondait aux questions de Gwen Taburet. Gwen, on vous retrouve dans un instant après la pause musicale, direction l'Italie avec Fabrizio Moreau qui interprète Pensa.
Pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole intatte, reali come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotto.
Place de l'Europe, avec le mouvement des jeunes européens, RCF Alsace.
Bonsoir à vous, nous poursuivons notre émission consacrée à l'Union européenne sur la scène internationale. Une autre affaire vient s'ajouter à l'actualité européenne et prend de plus en plus de place depuis quelques semaines dans la sphère publique, médiatique et désormais politique. Gwen, aujourd'hui, le sort des Ouïghours en Chine vous préoccupe?
Oui Rémi, je suis inquiète. Nous sommes aujourd'hui 75 ans après la libération des camps de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui l'histoire se répète et personne ne fait rien, ou presque. En Chine, dans la province du Xinjiang, près d'un million de Ouïghours, une minorité musulmane, sont aujourd'hui parqués dans des camps de concentration où ils subissent des déportations, des emprisonnements, le travail forcé et pour les femmes, le viol et la stérilisation forcée.
Et comment les gouvernements réagissent-ils face à ces crimes?
Jusqu'il y a quelques semaines, assez timidement je dois dire. Après de longs mois sans réelle prise de position de la part des gouvernements et face à la mobilisation des citoyens sur les réseaux sociaux pour dire non au plus grand internement de masse du XXIe siècle, plusieurs gouvernements ont décidé d'agir. Au début du mois d'octobre, 39 pays, dont l'Allemagne, la France ou encore les États-Unis, ont déposé à l'ONU une déclaration demandant au président chinois de, je cite, « respecter les droits humains des Ouïghours au Xinjiang ». Toujours pas de sanctions au vu, mais c'est déjà une avancée.
Et l'Union européenne dans tout ça?
L'Union européenne peine à se placer en réelle puissance diplomatique face à ce sujet, en prenant une vraie position commune aux 27 et en agissant contre la politique de Xi Jinping envers les Ouïghours. Oui, la Chine est un partenaire stratégique de l'Union, dont l'économie dépend pour une partie de l'empire du milieu, nous sommes d'accord. Pour autant, l'Union européenne doit-elle arrêter de faire ce qu'elle sait faire le mieux, à savoir être un moteur de paix, de respect des droits humains et d'entente entre les peuples, pour ne pas risquer de froisser un partenaire commercial? Certes, le sort des Ouïghours n'était peut-être pas la priorité du Conseil européen de ce début octobre, comme l'a montré précédemment Martin. Néanmoins, des sanctions devront être prises tôt ou tard contre le régime chinois. Car croyez-le ou non, l'Union européenne en sortira plus forte sur la scène internationale si elle se place en puissance diplomatique de premier plan, capable de sanctionner le régime chinois pour les méfaits qu'il accomplit contre la minorité ouïghour.
Aujourd'hui, les citoyens européens, au travers des réseaux sociaux, arrivent à faire entendre leur voix pour inciter les gouvernements à agir.
Oui, Rémi. Le travail du député européen Raphaël Glucksmann au Parlement européen a visiblement convaincu des milliers de jeunes citoyens européens depuis plusieurs semaines. Une large campagne de sensibilisation à la cause des Ouïghours a été mise en place sur Instagram, mais aussi dans des dizaines de villes en France et en Europe. Et c'est grâce à ces multiples actions que les gouvernements décident enfin d'agir. Les jeunes se rendent compte aujourd'hui qu'ils peuvent être des acteurs de la démocratie européenne et influencer l'échiquier international pour rendre enfin sa liberté et sa dignité au peuple ouïghour.
Le travail continue donc. Merci Gwen. Alors notre émission touche à sa fin. Merci Théo, Martin et Gwen pour vos chroniques consacrées à l'Union européenne sur la scène internationale. Nous remercions également Bernard Guetta d'avoir accepté notre demande d'interview. Cette émission de Place de l'Europe vous était présentée par l'association transpartisane des jeunes européens de Strasbourg. Nous sommes partisans pour une Europe plus sociale, plus démocratique et à terme plus fédérale. C'est la seule association en France qui traite de la construction européenne. Rendez-vous sur notre site internet jeunes-européens-strasbourg.eu si vous voulez en savoir plus et pourquoi pas nous rejoindre. Votre prochain numéro de Place de l'Europe se tiendra lundi prochain. Quant à nous, on se retrouve en novembre. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne soirée à vous.